Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin, réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Huitième épisode.
À la mort de son père, Marius découvre qu'il est un ancien héros de la bataille de Waterloo. Il se fâche avec son grand-père et le quitte. Il habite une chambre dans la masure Gorbeau, juste à côté des Thénardier qui désormais se font appeler Jondrette. Au jardin du Luxembourg, Marius croise Jean Valjean et Cosette. Il tombe amoureux d'elle. Jean Valjean s'en inquiète, ils ne viennent plus. Marius est accablé. Par un trou dans le mur de sa chambre, Marius voit et entend les Thénardier qui attendent la visite d'un bienfaiteur.
Entrez, monsieur. Daignez entrer, mon respectable bienfaiteur, ainsi que votre charmante demoiselle.
Marius n'avait pas quitté sa place. Ce qu'il éprouva en ce moment échappe à la langue humaine. C'était elle. Quiconque a aimé sait tous les sens rayonnants que contiennent les quatre lettres de ce mot. Elle. Elle reparaissait dans ce bouge difforme. Marius frémissait éperdument. Elle était toujours la même, un peu pâle seulement. Sa délicate figure s'encadrait dans un chapeau de velours violet. On entrevoyait sous sa longue robe son petit pied serré dans un brodequin de soie.
Monsieur, vous trouverez dans ce paquet des hardes neuves, des bas et des couvertures de laine.
Notre angélique bienfaiteur nous comble. Des nippes et pas d'argent, hein. Ils sont tous les mêmes.
Je vois que vous êtes bien à plaindre, monsieur.
Pauvre cher enfant.
Depuis quelques instants, Jondrette considérait le philanthrope d'une manière bizarre. Il semblait le scruter comme s'il cherchait à recueillir des souvenirs.
Regarde donc cet homme-là. Voyez, monsieur, je n'ai moi pour tout vêtement qu'une chemise de ma femme, et toute déchirée, au cœur de l'hiver. Savez-vous ce qui va se passer demain? C'est le 4 février, le jour fatal, le dernier délai que m'a donné mon propriétaire. Si ce soir je ne l'ai pas payé, demain, nous serons tous jetés dehors sous la neige. Je dois 4 termes, une année, c'est-à-dire 60 francs.
Je n'ai plus que ces 5 francs sur moi, mais je vais reconduire ma fille à la maison et je reviendrai ce soir. Je serai ici à 6 heures et je vous apporterai les 60 francs.
Mon bienfaiteur. Regarde-le bien, ma femme.
À ce soir, mes amis, 6 heures précises.
Oh, mon protecteur, je fonds là.
Marius n'avait rien perdu de toute cette scène, et pourtant, en réalité, il n'avait rien vu. Ses yeux étaient restés fixés sur la jeune fille. Quand elle sortit, il n'eut qu'une pensée, la suivre, ne la quitter que sachant où elle demeurait, ne pas la reperdre au moins après l'avoir si miraculeusement retrouvée. Il descendit en hâte et il arriva sur le boulevard à temps pour voir un fiacre tourner le coin de la rue du Petit Banquier et rentrer dans Paris.
À l'heure !
Payez d'avance, 40 sous.
Je paierai en revenant.
Marius regarda le cabriolet s'éloigner d'un air égaré. Il perdait sa joie, son amour. Il retombait dans la nuit, désespéré. Marius aperçut de l'autre côté du boulevard, le long du mur désert de la rue de la Barrière des Gobelins, Jondrette qui parlait à un de ces hommes de mine inquiétante qu'on est convenu d'appeler rôdeur de barrière. Gens à figure équivoque, à monologue suspect, qui ont un air de mauvaise pensée et qui dorment assez habituellement le jour, ce qui fait supposer qu'ils travaillent la nuit. Marius entra dans sa chambre.
Qui est là? Ah, c'est vous. Comme voulez-vous?
Monsieur Marius, vous avez l'air triste. Qu'est-ce que vous avez?
Je n'ai rien. Laissez-moi tranquille.
Tenez, vous avez tort. Quoique vous ne soyez pas riche, vous avez été bon ce matin. Soyez-le encore à présent. Vous m'avez donné de quoi manger. Dites-moi maintenant ce que vous avez. Vous avez du chagrin. Cela se voit. Puis-je servir à quelque chose? Je peux bien vous aider puisque j'aide mon père.
Écoute.
Oh, oui, tutoyez-moi. J'aime mieux cela.
Eh bien, tu as amené ici ce vieux monsieur avec sa fille. Sais-tu leur adresse?
Non.
Trouve-la-moi.
Est-ce que vous les connaissez?
Non.
C'est-à-dire que vous ne la connaissez pas, mais vous voulez la connaître.
Enfin, peux-tu?
Vous avoir l'adresse de la belle demoiselle. Qu'est-ce que vous me donnerez?
Tout ce que tu voudras.
Vous aurez l'adresse.
Marius se retrouva seul. Il se laissa tomber sur une chaise, abîmé dans des pensées qu'il ne pouvait saisir. Tout à coup, il fut violemment arraché à sa rêverie.
Je peux te dire que j'en suis sûr et que je la connais.
De qui parlait Jondrette? Marius allait-il savoir enfin qui il aimait? Il bondit sur la commode et reprit sa place près de la petite lucarne de la cloison.
Vraiment? Tu es sûr?
Sûr. Il y a 8 ans, mais je l'ai reconnu tout de suite. C'est le son de sa voix. Il est mieux mis, voilà tout. Vieux mystérieux du diable, je te tiens, va. Et veux-tu que je te dise quelque chose? La demoiselle, c'est elle.
Pas possible. Quand je pense que mes filles vont nu-pieds et n'ont pas une robe à se mettre, comment? Une pelisse de satin, un chapeau de velours et tout pour plus de 200 francs d'effet qu'on croirait que c'est une dame. Non, tu te trompes.
Je te dis que c'est elle. Tu verras. C'est que ma fortune est faite. Je vais avoir mon tour, moi, tiens. Avant de crever, je vais être millionnaire.
Chut, pas si haut.
Le voisin, je l'ai vu sortir tout à l'heure, ce grand bêta. Écoute bien, il est pris, le Crésus. Tout est arrangé, j'ai vu des gens. Les petites feront le guet, il s'exécutera.
Et s'il ne s'exécute pas?
Nous l'exécuterons.
Marius, tout songeur qu'il était, était, nous l'avons dit, une nature ferme et énergique. À travers les paroles ténébreuses qui avaient été dites, il n'entrevoyait qu'une chose, c'est qu'un guet-apens se préparait, obscur, terrible. Il fallait les sauver. Il se dirigea vers le faubourg Saint-Marceau et demanda à la première boutique qu'il rencontra où il y avait un commissaire de police. On lui indiqua la rue de Pontoise et le numéro 14. Marius s'y rendit.
Que voulez-vous?
C'est une affaire très secrète.
Marius lui conta l'aventure et que cela devait s'exécuter à 6 heures du soir, au point le plus désert du boulevard de l'hôpital, dans la maison du numéro 50-52.
C'est donc la chambre du fond du corridor.
Précisément. Est-ce que vous connaissez cette maison?
Apparemment.
Que comptez-vous faire?
Les locataires de cette maison-là ont des passe-partout. Vous devez en avoir un? Donnez-le-moi.
Si vous m'en croyez, vous viendrez en force.
L'inspecteur jeta sur Marius le coup d'œil de Voltaire à un académicien de province qui lui eut proposé une rime. Il plongea d'un seul mouvement ses 2 mains, qui étaient énormes, dans les immenses poches de son carrick et en tira 2 petits pistolets d'acier.
Prenez ceci. Rentrez chez vous. Ils sont chargés. Vous observerez, quand vous jugerez la chose à point, vous tirerez 1 coup de pistolet. Maintenant, il n'y a plus 1 minute à perdre. À propos, si vous aviez besoin de moi d'ici là, vous feriez demander l'inspecteur Javert.
Marius regagna à grands pas le numéro 50-52. Il jugea que le moment était venu de reprendre sa place à son observatoire. En un clin d'œil, il fut près du trou de la cloison.
Pourvu qu'ils viennent.
Entrez, mon bienfaiteur.
Voici pour votre loyer et vos premiers besoins. Nous verrons ensuite.
Maintenant, pour se faire une idée de la scène qui va suivre, que le lecteur se figure dans son esprit la nuit glacée, les solitudes de la salpêtrière couvertes de neige et blanches au clair de lune comme d'immenses linceuls, la clarté de veilleuse des réverbères rougissant çà et là ces boulevards tragiques. Et dans ce bouge, deux hommes assis à une table, la mère Louve dans un coin, et derrière la cloison, Marius, invisible, debout, le pistolet au poing. La porte du Galta venait de s'ouvrir brusquement et laissait voir trois hommes en blouse de toile bleue, masqués de masques de papier noir.
Tout est-il prêt ?
Oui.
Il y a un fiacre en bas ?
Oui.
Monsieur, vous ne me reconnaissez donc pas ?
Non.
Je ne m'appelle pas Jondrette. Je me nomme Thénardier. Je suis l'aubergiste de Montfermeil. Me reconnaissez-vous ?
Pas davantage.
Marius n'entendit pas cette réponse. Qui l'eût vu en ce moment dans cette obscurité, l'eût vu hagard, stupide et foudroyé. Quoi, c'était là ce Thénardier qu'il avait vainement et si longtemps cherché ? Ce sauveur de son père était un bandit. Il se sentait fou. Ses genoux se dérobaient sous lui.
Fricassé à la crapaudine. Ah, vous ne me reconnaissez pas.
Ce n'est pas vous qui êtes venu à Montfermeil, à mon auberge, il y a 8 ans ? Qui avait emmené de chez moi l'enfant de la Fantine, l'Alouette ? Avec son air bonasse. Parbleu, vous vous êtes moqué de moi autrefois.
Je ne sais ce que vous voulez dire. Vous vous méprenez, je suis un homme très pauvre et rien moins qu'un millionnaire. Je ne vous connais pas.
Ah, la bonne balançoire. Vous pataugez, mon vieux. Vous ne vous souvenez pas.
Pardon, monsieur. Je vois que vous êtes un bandit.
Bandit. Oui, je sais que vous nous appelez comme cela, messieurs les gens riches. Tiens, c'est vrai. J'ai fait faillite, je me cache. Ah, vous avez des redingotes ouatées comme des archevêques. Vous mangez des bottes d'asperges à 40 francs au mois de janvier et des petits pois. Vous vous gavez. Quand je pense qu'il ose venir me parler comme à un savetier. Sachez encore ceci, monsieur le philanthrope. Je suis un ancien soldat français. Je devrais être décoré. J'étais à Waterloo, moi. Et j'ai sauvé dans la bataille un général appelé le comte de je ne sais quoi. Et maintenant, finissons. Il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Énormément. Ou je vous extermine, tonnerre du bon Dieu.
Marius avait repris quelque empire sur ses angoisses et écoutait. La dernière possibilité de doute venait de s'évanouir. C'était bien le Thénardier du testament de son père. Il frissonnait.
Qu'as-tu à dire avant qu'on te mette en brinzingue ? Attachez-le !
Monsieur, vous avez eu tort de vouloir sauter par la fenêtre. Eh bien, vous n'avez pas crié. C'est que vous ne vous souciez pas plus que nous de voir arriver la police. Il y a longtemps que je m'en doute. Vous avez un intérêt à cacher quelque chose. De notre côté, nous avons le même intérêt. Donc nous pouvons nous entendre.
Il me faut simplement 200 000 francs. Ayez la bonté d'écrire ce que je vais vous dicter.
Quand voulez-vous que j'écrive ? Je suis attaché.
Bigrenaille, déliez le bras droit de monsieur. Je dicte. Ma chère fille, viens sur le champ. Je t'attends. Signé, quel est votre nom ?
Urbain Fabre.
Mettez l'adresse. Ma femme, voici la lettre. Un fiacre est en bas, pars tout de suite. Surtout ne perds pas la lettre.
Il ne restait plus dans le bouge, avec Thénardier et le prisonnier, que 5 bandits. Marius attendait dans une anxiété que tout accroissait. Qu'était-ce que cette petite que Thénardier avait aussi nommée l'Alouette ?
L'Alouette ? Dans tous les cas, je le verrai bien, car la Thénardier va l'amener ici. Alors tout sera dit. Je donnerai ma vie et mon sang s'il le faut. Mais je la délivrerai.
Voici la bourgeoise.
Fausse adresse.
Une fausse adresse. Qu'est-ce que tu as donc espéré ?
Gagner du temps.
Et au même instant, le prisonnier secoua ses liens. Ils étaient coupés.
Sois tranquille, il tient encore par une jambe. J'en réponds, c'est moi qui ai ficelé cette patte-là.
Vous êtes des malheureux, mais ma vie ne vaut pas la peine d'être tant défendue. Tenez, faites de moi ce que vous voudrez.
Empoignez-le. Il n'y a qu'une chose à faire.
L'escarpé.
C'est cela.
Marius égaré promenait ses yeux autour de lui. Dernière ressource machinale du désespoir. Tout à coup, il tressaillit. Sur sa table, un vif rayon de pleine lune éclairait une feuille de papier. Il lut cette ligne écrite le matin même par l'aînée des filles Thénardier. « Les cognes sont là ». Il saisit la feuille, détacha un morceau de plâtre de la cloison, l'enveloppa dans le papier et jeta le tout par la crevasse.
« Quelque chose qui tombe !»«
C'est de l'écriture d'Éponine ?»
Diable! Vite l'échelle! Laissons-le là dans la souricière et fichons le camp! Viens la bourgeoise!
Dis donc, vieux farceur, après nous!
Après nous!
Ah, vous êtes des enfants! Nous perdons le temps! Les rats sont sur nos talons!
Tirons au sort qui passera le premier!
Voulez-vous mon chapeau?
Tous se retournèrent. C'était Javert.
Vous ne passerez pas par la fenêtre, vous passerez par la porte. C'est moins malsain. Vous êtes 7, nous sommes 15. Soyons gentils. Faites approcher ce monsieur que ces messieurs avaient attaché. Bien. Où est-il donc?
Le prisonnier des bandits avait disparu. Il avait profité d'un moment pour s'élancer par la fenêtre. L'échelle de corde tremblait encore.
Diable. Ce devait être le meilleur.
Vingt mois à peine s'étaient écoulés depuis la Révolution de juillet. L'année 1832 s'était ouverte avec un aspect d'imminence et de menace. La détresse du peuple, les travailleurs sans pain, les fleurs de lys raturées sur la voiture du roi. Vers la fin d'avril, tout s'était aggravé. La fermentation devenait du bouillonnement. Marius, à peine Javert eut-il quitté la masure, se glissa hors de la maison. Il alla chez Courfeyrac. Courfeyrac n'était plus l'imperturbable habitant du quartier latin. Il était allé demeurer rue de la Verrerie pour des raisons politiques. Ce quartier était de ceux où l'insurrection, dans ce temps-là, s'installait volontiers. Marius avait deux raisons pour ce déménagement si prompt. La première, c'est qu'il avait horreur maintenant de cette maison où il avait vu, de si près, une laideur sociale plus affreuse peut-être encore que le mauvais riche, le mauvais pauvre. La deuxième, c'est qu'il ne voulait pas figurer dans le procès et être amené à déposer contre Thénardier. Il ne voyait plus rien devant lui. Sa vie était replongée dans ce mystère où il errait à tâtons. Détresse poignante, il avait une passion dans le cœur et la nuit sur les yeux. Tout s'était évanoui, excepté l'amour.
Si je pouvais seulement la revoir avant de mourir.
Quand on a monté la rue Saint-Jacques, on atteint la rue de la Santé, puis la Glacière, et un peu avant d'arriver à la petite rivière des Gobelins, on rencontre une espèce de champ. Il arriva que les promenades solitaires de Marius le conduisirent à ce terrain près de cette eau.
Comment se nomme cet endroit-ci ?
C'est le champ de l'Alouette.
Tiens, ceci est son champ. Je saurai ici où elle demeure.
Et il vint tous les jours à ce champ de l'Alouette. Il l'habitait plus que le logis de Courfeyrac. Sa véritable adresse était celle-ci, boulevard de la Santé, au 7e arbre, après la rue Croulebarbe. Un matin, un gai soleil pénétrait les feuilles fraîches épanouies et toutes lumineuses. Il songeait à elle. Quand tout à coup, au milieu de son extase accablée, il entendit une voix connue.
Tiens, le voilà, je vous rencontre donc. Comme je vous ai cherché, si vous saviez, j'ai été au bloc 15 jours. Ils m'ont lâché. Dis donc, où est-ce que vous demeurez à présent? Oh, vous avez un trou à votre chemise. Il faudra que je recousse cela. Vous n'avez pas l'air content de me voir. Si je voulais pourtant, je vous forcerais bien à avoir l'air content.
Que voulez-vous dire?
Vous me disiez-tu?
Eh bien, que veux-tu dire?
J'ai l'adresse que vous m'avez demandée.
Oui?
de la demoiselle.
Oh. Conduis-moi. Demande-moi tout ce que tu voudras. Où est-ce ?
C'est tout de l'autre côté d'ici. Je connais bien la maison. Comme vous êtes content.
Ton père. Promets-moi, Éponine. Jure-moi que tu ne diras pas cette adresse à ton père.
C'est gentil, ça. Vous m'avez appelé Éponine ? Ah oui, mon père. Soyez donc tranquille, il est au secret.
Tu ne me promets pas.
Mais lâchez-moi donc. Je ne dirai pas l'adresse à mon père. Venez. Vous me suivez de trop près, monsieur Marius.
Il ne faut pas qu'on voit un jeune homme bien comme vous, avec une femme comme moi. À propos, vous savez que vous m'avez promis quelque chose.
Tiens.
Je ne veux pas de votre argent.
Vers le milieu du siècle dernier, un président amortier au Parlement de Paris, ayant une maîtresse et s'en cachant, fit construire une petite maison, Faubourg Saint-Germain, dans la rue déserte de Blomet, qu'on nomme aujourd'hui rue Plumet. Au mois d'octobre 1829, un homme d'un certain âge avait loué la maison. Ce locataire était Jean Valjean. La jeune fille était Cosette. La servante était une fille appelée Toussaint, que Jean Valjean avait sauvée de l'hôpital et de la misère, et qui était vieille, provinciale et bègue. Trois qualités qui l'avaient déterminé à la prendre avec lui. Il avait loué la maison sous le nom de Monsieur Fauchelevent, rentier. 5 ans de disparition avaient nécessairement détruit ou dispersé les éléments de crainte. Il avait vieilli et tout avait changé. Quant à l'éducation de Cosette, elle était à peu près terminée et complète. Le vieux Fauchelevent mourut. Il demanda audience à la révérende prieure et lui dit qu'ayant fait à la mort de son frère un petit héritage qui lui permettrait de vivre désormais sans travailler, il quittait le service du couvent et emmenait sa fille. Il découvrit la petite maison de la rue Plumet et s'y blottit. En même temps, il loua 2 autres appartements dans Paris, l'un rue de l'Ouest et l'autre rue de l'Homme Armé, afin de ne plus se trouver au dépourvu comme la nuit où il avait si miraculeusement échappé à Javert. Monsieur Fauchelevent, rentier, était de la garde nationale. Il n'avait pu échapper aux mailles étroites du recensement de 1831. Les renseignements municipaux étaient remontés jusqu'au couvent du Petit Picpus, d'où il était sorti vénérable aux yeux de sa mairie. 3 ou 4 fois l'an, Jean Valjean endossait son uniforme et faisait sa faction.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. 8e épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Vigning, Jean Valjean, Aurélie Nusillard, Cosette, Hervé Furic, Thénardier, Emmanuel Granger, la Thénardier, Florence Warécaille, Éponine, Clément Bondu, Marius, Vincent Schmitt, Javert. Et les voix de Maïlys Ricordeau, Étienne Grébeau, Pierre-Henri Pointé, Maxime Dambrun, Henri-David Cohen, Michel Baladi, Olivier Augron, Anna Gaylor et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Lévy. Bruitage Patrick Martinache, Jean-François Bernard Sugy et Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dérété et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe.